Quels sont les sacrifices nécessaires pour être entrepreneur? C'est ce que je partage avec vous aujourd'hui dans cet épisode de l'émission Agir et réussir, l'émission des gens qui se bougent. Alors pourquoi je tiens aujourd'hui à partager avec vous quels sont les sacrifices à faire pour devenir entrepreneur? Parce que récemment, je discutais avec une personne qui a eu une initiative très courageuse. Il y a à peu près 18 mois, elle a décidé de quitter son emploi pour se consacrer à son projet de création d'entreprise. Et bon, elle l'a fait de manière intelligente, c'est-à-dire qu'elle a fait un départ négocié, ce qui lui a permis de toucher les assédics pendant 2 ans. Le problème, c'est que son projet n'a pas avancé aussi vite qu'elle le voudrait et que du coup, elle se retrouve avec juste quelques mois, là, 4 mois avant qu'elle n'ait plus d'assédics du tout, alors qu'elle n'a pas encore une source de revenus suffisante avec son entreprise. Donc, on s'est posé tous les deux et on a analysé en détail ce qui s'est passé et les leçons finalement de son expérience sont tellement universelles que je tiens à les partager avec vous aujourd'hui. Donc le problème numéro 1 de cette personne, c'est qu'elle n'a pas été assez vite et ce pour tout un tas de raisons. Elle a été un petit peu trop cool parce que déjà, elle croyait absolument qu'elle allait réussir, ce qui en soi est une bonne chose, mais qui ne veut rien dire puisque évidemment tous les entrepreneurs qui se lancent croient ça, même ceux qui vont échouer au final. Mais elle a eu une démarche un petit peu trop de bisounours, je dirais. C'est-à-dire que pour elle, elle accomplissait un rêve, elle avait eu le courage de quitter son job et de se lancer dans une nouvelle aventure et déjà elle avait le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Et quelque part, c'est vrai, c'est déjà beau d'oser faire ça et de franchir le pas alors qu'il y a des tas de gens qui rêvent de faire ça et qui toute leur vie vont rester dans leurs pantoufles en ciment de salariés. Mais il ne faut pas confondre ce sentiment d'exaltation avec le sentiment d'achèvement. Ce sentiment d'exaltation, c'est celui que vous avez quand vous avez décidé enfin de prendre votre bâton de randonnée et que vous allez faire vos premiers pas dans la randonnée. C'est celui qu'on peut avoir quand on commence à escalader la montagne. Mais ce n'est pas celui qu'on a quand on a fait enfin son marathon de 40 km et qu'on est arrivé par exemple dans le top 50 ou qu'on est enfin arrivé en haut de la montagne. C'est juste un premier pas vers l'objectif final qu'on s'est assigné. Et se lancer dans l'aventure, c'est bien. Créer son entreprise, c'est bien. Créer une entreprise rentable, c'est mieux et c'est ça le véritable objectif. Donc le problème, le gros problème de cette personne, c'est qu'elle n'a pas agi de manière assez rapide, assez concrète et en ayant le couteau entre les dents. Parce que quels sont les sacrifices nécessaires pour être entrepreneur au final? L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est absolument génial, qui peut vous donner une liberté dont les salariés ne peuvent même pas rêver. Mais qui demande à côté de ça des choses qu'on ne demande pas aux salariés. Et la première chose, c'est que ça vous confronte à la réalité d'une manière qui ne pardonne pas. C'est-à-dire que tant que votre entreprise ne vous rapporte pas de l'argent, c'est juste une hypothèse non testée. Et ça peut être une hypothèse totalement farfelue ou une idée de génie ou quelque chose entre les deux. Mais tant que vous n'avez pas commencé à gagner de l'argent avec ce projet, avec cette entreprise, vous n'avez aucune idée de son potentiel réel. Donc avoir la foi, avoir l'optimisme, oser faire le premier pas et quitter ce job pour vous lancer dans votre entreprise, c'est bien, mais il faut vous confronter le plus vite possible à la réalité. Et quand j'y le plus vite possible, c'est avec le couteau entre les dents. Vous devez avoir une mentalité de guerrier, de samouraï, de ninja, tout ce que vous voulez. Et vous devez vous confronter à la réalité du champ de bataille. Parce que le gros problème, le gros piège finalement de cette démarche-là, c'est d'être dans une démarche de bisounours en disant « Oui, oui, je vais y arriver, ça va être génial, ça va être super, j'ai déjà quitté mon job, ça y est, je fais comme tous ces mecs géniaux qui ont créé Facebook, Google, Microsoft, etc. J'ai arrêté l'école, j'ai arrêté mon job, etc. J'ai fait le premier pas, donc du coup, tout le reste va couler naturellement. » Il n'y a rien de plus faux. Vous avez fait le tout premier pas, encore une fois, vous êtes dans le premier pas de votre randonnée et vous devez encore escalader cette putain de montagne. Et elle n'est pas facile à escalader. Vous devez y aller à fond, vous devez tout donner, vous devez prendre l'équipement qu'il faut, vous devez suivre des guides qui vont vous montrer comment faire et comment pas vous prendre de rochers dans la gueule ou tomber dans des ravins, etc. Et vous devez donner tout ce que vous avez. Vous devez tout. Vous devez être prêt à sacrifier votre temps, votre énergie et à mettre absolument toutes les chances de votre côté. L'idéal, c'est d'avoir le feu sacré, c'est-à-dire une motivation qui est tellement forte, qui est tellement brûlante au fond de vous que chaque obstacle que vous voyez, c'est un challenge qui vous excite et vous dites de toute façon, même si ça vous excite pas, même si ça vous fait chier de le faire, vous dites « Ok, C'est juste un truc qui est sur ma route, mais il n'y a rien qui va m'arrêter. Je vois un mur, je fonce dedans. Je vois une montagne, je fonce dedans. Ça, c'est très important de l'avoir, mais il faut que derrière, ça se traduise concrètement par des actions, des actions, des actions, des actions, des actions. Les mesures des résultats de ces actions et des corrections. Donc, pour revenir à l'exemple de cette personne, moi, c'est l'analyse que j'en ai faite et finalement qu'on a discuté, elle était assez d'accord avec moi, même si c'est évidemment pas facile à entendre, c'est qu'elle s'est écoulée beaucoup trop douce. Je l'avais rencontrée à plusieurs événements et je lui avais donné des conseils, de choses à faire. J'avais repéré qu'elle agissait pas assez vite. Je lui disais par exemple, tu as déjà une liste, envoie un mail maintenant. Elle me dit non, mon blog est pas prêt, il manque encore ça, blablabla. J'ai pas mis la couleur rose fuchsia que je voulais, le petit arrière-plan qui va bien, le petit machin pixel à droite là, il va pas. Bon, j'exagère un peu, mais c'était ça. Je lui dis écoute, on s'en fout, pas besoin d'avoir un blog parfait. Il faut que tu agisses maintenant, il faut que tu aies une liste, il faut que tu sois en contact avec les gens, il faut qu'ils soient au courant de ce que tu fais. Ton objectif, c'est d'avoir lancé ton produit dans les 3 mois, sinon dans 1 an, tu y seras encore. Et c'est exactement ce qui s'est passé au final, c'est qu'elle s'est laissée prendre dans une sorte de procrastination intelligente dont j'ai déjà parlé de nombreuses fois sur cette chaîne. À essayer de faire des trucs parfaits comme voilà le design de son site ou le design de sa newsletter, ou enfin voilà, on s'en fout complètement de tout ça. Quand vous vous lancez dans votre projet, mettez en place une stratégie avec des actions clés et dites-vous toujours mon but, c'est d'obtenir mes premières ventes le plus vite possible. Et si je vois que ce que j'avais prévu de vendre ne se vend pas, hop, on fait ce qu'on appelle un pivot. Hein. Ça, c'est dans la stratégie Lean Startup d'Eric Ryse. On fait un pivot. Donc, OK, ça, tel que j'imaginais, ça ne se vend pas. OK, on va utiliser les feedbacks des premières personnes qui ont été en contact avec le produit, qu'elles aient acheté ou non. On va changer un petit peu l'approche, l'angle, les caractéristiques du produit, du service et on réessaie. On réessaie, on réessaie. Et vous devez être prêt à sacrifier, à venir à passer parfois 10 heures par jour, ok, pour créer votre boîte. Alors, moi je peux vous parler, vous allez me dire, ok Olivier, super, mais toi tu préconises de faire une entreprise lifestyle où justement on utilise des effets de levier, on automatise tout ce qu'on peut pour travailler le moins possible et puis profiter de la vie. Mais c'est vrai, mais ça n'empêche pas que avant de pouvoir utiliser ce genre d'effet de levier, il faut d'abord amorcer la machine, il faut la lancer et une fois seulement qu'elle est en route, vous pouvez commencer à essayer de voir comment utiliser ces effets de levier, etc. Dans ma vie jusqu'à présent, j'ai créé 2 entreprises, bon 3 si on considère l'entreprise que j'ai créée ici en Grande-Bretagne, mais c'est juste un déménagement de mon entreprise française. Ma toute première, donc, que j'ai créée à 19 ans, je peux vous dire que je me suis battu. Hein. Tous les jours, je travaillais 7 jours par semaine et je terminais jusqu'à 22 heures à peu près parce que j'avais le feu sacré, parce que j'y croyais, parce qu'il fallait absolument que ça marche. Et le truc, c'est que l'entrepreneuriat, encore une fois, ça ne pardonne pas, ça vous met en contact avec la réalité d'une manière fait que vous devez prendre vos responsabilités. C'est la même chose que par exemple piloter un avion. Moi je prends des cours de pilotage, donc je parle en connaissance de cause. Il n'y a rien de tel que la sensation de piloter dans les airs comme ça, de vous balader entre les nuages, de voir tout d'en haut, et que c'est extraordinaire. La première fois où vous faites votre lâcher, c'est-à-dire que vous décollez par vous-même, il n'y a personne dans l'avion, votre instructeur il n'est pas là, vous décollez, vous faites le tour de l'aérodrome et vous allez vous poser, c'est quelque chose d'incroyable. Mais en même temps, le corollaire de ça, le sacrifice que ça demande, c'est que ça demande que vous soyez responsable. Parce que quand vous pilotez un avion, vous êtes le pilote dans l'avion. C'est vous le leader, c'est vous qui prenez vos décisions. Et ces décisions, elles peuvent avoir une comme conséquence la vie ou la mort pour vous et les passagers qui sont avec vous. Et c'est la même chose quand vous lancez l'entrepreneuriat. Vous pouvez connaître une liberté incroyable, des sensations grisantes, aussi un revenu parfois confortable. En tout cas, vous pouvez vivre votre passion, mais à côté de ça, vous devez être responsable, vous devez être capable de vous manager vous-même. Il n'y a plus personne qui va vous engueuler pour vous dire que c'est bien ou c'est pas bien, sauf si vous prenez un coach. Vous êtes confronté à la réalité et c'est vous qui êtes responsable du succès de votre entreprise ou de son échec, de votre capacité à vivre de ça ou pas et parfois même de la manière dont votre famille va pouvoir vivre dans les mois, les prochains mois et les prochaines années parce que parfois ça peut avoir une incidence importante sur votre vie personnelle. Donc, c'est encore une fois très important de mettre toutes les chances de votre côté. Passez-y le temps qu'il faut, apprenez ce qu'il faut, entourez-vous des gens qu'il faut et si vous voyez que mettez votre produit le plus vite sur votre marché. La deuxième entreprise que j'ai créée, elle, effectivement, donc mon entreprise actuelle, c'était les éditions Roland, maintenant c'est Roland Publishing. Je l'ai créé juste au début en bossant sur mes blogs une dizaine d'heures par semaine, à peu près 10 heures par mois à côté de ma première boîte. Mais j'avais déjà 10 ans d'expérience d'entrepreneuriat et au début, je n'avais pas besoin de cette entreprise pour gagner de l'argent. Et j'avais des feedbacks immédiats. Je me suis confronté à la réalité du terrain dans le sens où j'ai publié des blogs. Et d'ailleurs, mon premier blog à succès était mon troisième blog, donc j'ai fait deux échecs avant. Et voilà, j'avais des feedbacks de mes lecteurs, j'ai pu voir le trafic croître, etc. Alors que dans le premier blog, le trafic était en une croissance très très faible et que je voyais que ça ne marchait pas. Donc j'avais des résultats, des choses que je pouvais mesurer qui me montraient si j'étais sur la bonne voie ou pas. Et j'ai changé comme ça, je me suis adapté en conséquence. Parce que c'est aussi ce que je partageais dans une autre vidéo que vous pouvez aller voir d'ailleurs en cliquant ici si vous ne l'avez pas vu sur la méta-persévérance. Parce que souvent on dit moi je vais réussir parce que voilà, je vais persévérer quoi qu'il arrive. Bon, il y a différentes sortes de persévérance. Il y a la persévérance intelligente, puis il y a ce qu'on appelle l'obstination. C'est qu'on voit un mur, on essaie de faire un trou dedans avec sa tête, ok ? On donne des coups de boule dedans, ça ne marche pas, on se dit merde, je vais y arriver, bam, bam, puis après on finit dans le coma. La méta-persévérance, c'est de dire ok, je veux par exemple de réussir à devenir entrepreneur, ce qui veut dire pour moi, et ça passe aussi par la définition d'objectif clair, donc vous pouvez aussi aller voir la vidéo sur le fait de définir des objectifs SMART. Ça veut dire par exemple, ok, d'ici un an, je veux gagner 2000 euros par mois grâce à ma boîte et du coup pouvoir être entrepreneur vraiment et que ça soit une source de revenus suffisante pour que je puisse en vivre. Donc cet objectif de 2000 euros par mois, vous pouvez l'atteindre peut-être par votre premier projet, mais si vous n'arrivez pas dans votre premier projet, la méta-persévérance, c'est de vous dire ok, je veux quand même, ce premier projet n'a pas marché, je veux quand même arriver à gagner 2000 euros par mois avec une entreprise, donc je vais me lancer dans un deuxième projet, puis dans un troisième projet. Ça peut être une méta-persévérance qui est à l'intérieur d'une même entreprise où vous dites ok, ce produit-là n'a pas marché, je vais en essayer un autre, ou une méta-persévérance où vous dites ok, c'était même pas une bonne idée de business, je vais me lancer dans un autre business. Bon, en tout cas, ce qui est très important et les sacrifices que demande l'entrepreneuriat quand on se lance, c'est 1. D'y consacrer tout le temps que vous avez, toute l'énergie que vous avez, de vous former, de vous entourer, d'avoir des gens qui sont capables de vous donner des feedbacks, de confronter votre produit le plus vite à la réalité du terrain. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo sur justement la stratégie de Lean Startup adoptée, comment faire en sorte de se confronter à la réalité du terrain le plus vite possible avec des prototypes, avec le moins de coûts possible et le moins de temps passé possible, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Si ça fait 6 mois, 1 an que vous bossez sur votre projet et qu'au final, c'est juste quelque chose que vous avez travaillé dans votre chambre chez vous sans avoir aucun contact avec la réalité, vous êtes en grand danger. Déjà, 1, de procrastiner intelligemment, 2, que votre projet n'aboutisse jamais et 3, que quand il aboutisse, tout le monde s'en fout complètement. Vous devez faire en sorte que votre projet, au moins des aspects importants, primordiaux de celui-ci, soit en contact avec la réalité. Donc, posez-vous la question, si vous êtes dans un projet entrepreneuriat, est-ce que j'ai proposé un prototype de mes produits, de mes services au public d'une manière ou d'une autre? Est-ce que j'ai eu des feedbacks de gens par rapport à ça? Ou est-ce que ça fait 6 mois, 1 an que je bosse sur un projet, qu'au final je suis dans ma tête et seulement dans ma tête et il n'y a personne qui a vraiment accès à tout ce que je pense là et du coup, je n'ai pas eu de feedback. Ça peut, alors vous allez me dire, ok super, mais si on a une startup par exemple et que notre projet, on ne connaît pas le business model, c'est un petit peu comme quand Facebook ou Twitter s'est lancé, on ne sait pas trop comment on va monétiser, mais on pense que ça a de l'envergure, comment faire? Bon, ça c'est encore un autre cas de figure. Dans ce cas-là, le mieux, je pense, c'est d'intégrer des écosystèmes où vous allez avoir tout un écosystème d'entrepreneurs, d'investisseurs, de gens qui ont l'expérience de tout ça et qui vont pouvoir vous donner des feedbacks. Et d'ailleurs, même si vous créez une petite entreprise toute bête comme je sais pas moi une boulangerie par exemple, ça vous dispense pas aussi d'entrer en contact avec le réseau de création d'entreprises de votre ville. Moi, je suis passé par là pour créer ma première boîte et après, j'en ai fait partie parce que j'ai fait partie du jury d'une structure de financement d'entreprise pendant 8 ans. Et c'est aussi une excellente manière de vous confronter à la réalité. Vous allez être en contact avec des gens qui connaissent un petit peu de tout ça et qui vont vous donner des feedbacks qui ne sont pas des feedbacks de potes qui veulent vous faire plaisir, mais des feedbacks de professionnels. Et voilà, et parfois ces gens ont tort et parfois ils ont raison, mais il faut toujours se confronter à la réalité et agir massivement, intelligemment, mesurer les résultats de ces actions et faire des actions correctives en conséquence. Hey ! Merci d'avoir écouté ce MP3 qui est tiré d'une vidéo publiée sur la chaîne YouTube. Donc, comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous aimez écouter ces podcasts sur iTunes, eh bien, allez tout simplement sur iTunes pour noter cette émission. Voilà, donnez-lui une note si vous l'appréciez. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez voir les vidéos originales desquelles sont extraits les podcasts en allant sur olivier-roland.tv. Olivier-roland, R-O-L-A-N-D. www.lecoachingclub.tv. Merci d'avoir écouté ce podcast. À demain pour de nouvelles aventures dans le prochain.